Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. Et ce soir encore, on gardera évidemment un œil grand ouvert sur les États-Unis. Joe Biden devance désormais Donald Trump avec 40 grands électeurs de plus. Il n'est pas loin de la victoire, mais rien n'est fait. Le dépouillement se poursuit dans plusieurs états pivots, alors que Trump, lui, demande de tout arrêter en lettres capitales sur Twitter, comme à son habitude. On sera toute la soirée en direct sur place avec nos envoyés spéciaux. 18h20, un autre regard sur le monde ce soir. Le génie de la BD, Riyad Satouf, qui vient nous présenter en exclu le cinquième tome de l'Arabe du futur. Drôle et sombre à la fois, comme toujours, c'est brillant. 18h30, les grandes voix spéciales US avec nos éditorialistes et correspondants. Et puis à 19h20, dans le Club des idées, l'immigration en question, alors que le président Macron a fait de nouvelles annonces. On vous dira tout sur les vrais chiffres de l'immigration du travail. A-t-on besoin de faire appel aux étrangers pour faire tourner notre économie? Réponse tout à l'heure. D'abord le journal avec Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Stop the count, arrêtez le décompte. Donald Trump, plus combatif et plus vindicatif que jamais. Il ne supporte pas apparemment de voir l'avancée de son adversaire Joe Biden qui pourtant n'a pas encore gagné.
Et tout se joue en ce moment dans les derniers états. On sera sur place évidemment dès le début de ce journal pour y voir plus clair.
Et on sera évidemment aussi aux côtés des partisans de Joe Biden et du président sortant, les deux camps qui s'impatientent.
Emmanuel Macron annonce le doublement des forces de sécurité aux frontières françaises pour faire face, dit-il, à la menace terroriste et à l'immigration illégale. Il faut aussi refonder l'espace Schengen.
La situation intenable dans les lycées et collèges. Le premier syndicat du secondaire appelle à une grève sanitaire. Il dénonce un protocole insuffisant. Europe 1 vous annonce ce soir que le ministre de l'Éducation va sortir de son silence.
Et puis il a 23 ans et a manifestement hérité du talent de son illustre papa.
Marcus Thuram rejoint l'équipe de France. Didier Deschamps choisit de miser sur le fils de son ancien coéquipier. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 1,24% à 4 983 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Bonsoir Anissa.
Bonsoir.
Un léger redout au programme demain. C'est vrai qu'on s'est un peu caillé aujourd'hui.
Alors ça va concerner la moitié sud. Hein. Je suis désolée Julien, mais la journée de demain sera printanière. Sur la moitié nord, encore de la fraîcheur, mais surtout un grand soleil qui va briller sur quasiment toute la France. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et les jeux ne sont pas encore faits. Il reste des dizaines de milliers de bulletins à dépouiller, même si, semble-t-il, Joe Biden n'a jamais été aussi près de la Maison-Blanche.
Après des victoires précieuses dans le Wisconsin et le Michigan notamment.
Et on va retrouver Xavier Yvon tout de suite en direct de New York. Alors Xavier, vous allez nous dire où on en est précisément des votes. Mais d'abord, parlez-nous de Trump, Xavier, qui a encore utilisé son arme préférée, Twitter.
Oui, pour dire qu'il lâcherait rien, après un silence inhabituel pour lui sur Twitter ce matin, Donald Trump s'est réveillé et il contre-attaque de deux manières. D'abord, il exige qu'on arrête de compter les bulletins qui restent, notamment dans les états où il est encore en tête mais où son avance est en train de fondre. Et ensuite, il promet des recours en justice contre toutes les victoires revendiquées de Joe Biden dans les états disputés. Il affirme qu'il y a des fraudes, il y a plein de preuves. Regardez les médias, écrit le président américain. Alors les preuves, pour l'instant, personne n'en apporte. Hein. On ne sait pas de quels médias il parle parce qu'aucun ne constate de fraude. On a même vu la porte-parole de la Maison-Blanche mise devant ses incohérences dans une interview tout à l'heure sur Fox News, la chaîne conservatrice. Qu'à cela ne tienne, nous allons gagner l'Amérique d'abord, clame Donald Trump sur Twitter. Le président est toujours enfermé dans la Maison-Blanche et on ne l'a pas entendu depuis la nuit de l'élection.
Bien, et sinon Xavier, où en est-on exactement? Est-ce qu'il y a une chance pour qu'on connaisse d'ici ce soir, même tard, le nom du président des États-Unis?
Alors c'est évidemment la question que se posent tous les Américains. Je ne vais plus m'avancer à faire de pronostics. Hein. Tout le monde espère que ce soit aujourd'hui. Les télés parlent du jour décisif, mais on pensait que ce serait hier, donc on va attendre. On ne sait donc pas quand on saura, mais à la question « qui ?» va gagner. Alors la réponse ne fait pas beaucoup de doutes pour la presse américaine. Il suffit de regarder les unes ce matin. Le Chicago Tribune, le Boston Globe, le Los Angeles Times, tous titrent à peu près la même chose. Biden se rapproche des 270 grands électeurs. Il en est à 264 hein, si on lui attribue l'Arizona, pour lequel certains médias ont encore des doutes. Donc il suffit que Joe Biden gagne un État parmi ceux qui sont en train de finir de compter. Il y a le Nevada, on attend des chiffres dans la journée. Il y a la Géorgie, là-bas il reste 65 000 bulletins à dépouiller. La secrétaire d'État locale promet que ce sera fini aujourd'hui. Joe Biden est sur les talons de Donald Trump en Géorgie. Et comme les bulletins qui restent à compter viennent de zones urbaines extrêmement démocrates, eh bien les spécialistes qui font chauffer leurs calculettes depuis des heures pensent que Joe Biden peut l'emporter. C'est la même logique en Pennsylvanie où il reste plus de bulletins à dépouiller et donc ça devrait nous tenir jusqu'à vendredi. Mais la campagne Biden se dit optimiste. Nevada, Géorgie, Pennsylvanie, trois États, trois possibilités pour Joe Biden de devenir le 46e président des États-Unis. Pour être réélu, Donald Trump, lui, doit gagner ces trois États. C'est encore possible, mais c'est très compliqué.
Bien, j'espère que vous avez encore du peps et du café à vos côtés. Merci Xavier, vous restez avec nous toute la soirée évidemment et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des informations complémentaires en direct de New York.
Donald Trump qui en tout cas continue visiblement d'y croire, même si nous on va continuer à rester très prudents, c'est notre règle ici sur Europe 1. Xavier nous disait il y a quelques instants qu'il y a encore des doutes. Alors on va retrouver maintenant Théo Manval qui est à Kittanning, c'est une petite ville industrielle de Pennsylvanie où l'on a voté à plus de 80% pour Donald Trump et où on commence, Théo, à se résigner.
Oui, parce qu'on voit sur les télés cette avance du président se réduire ici aussi. Il reste 8% des bulletins à dépouiller en Pennsylvanie et Trump n'a plus que 115 000 voix d'avance. C'était 170 000 ce matin, 700 000 au départ hier. Xavier Yvon le disait à l'instant, c'est la même chose dans d'autres états clés comme en Géorgie. Alors pour Jesse, ici, il n'y a plus vraiment de doute. Oui, la page est en train de se tourner.
Ah, c'est fini, c'est fini. Biden a gagné, c'est fini. Mais c'est une élection truquée, à mon avis. Tous ces bulletins par courrier avec le Covid, ce sont les démocrates qui les ont remplis pour pouvoir se débarrasser de Trump.
Vous l'entendez, on a quand même du mal ici à croire à ce mirage rouge, une avance au départ pour Trump avec les bulletins en personne des électeurs ruraux comme ici. Et la remontada de Joe Biden grâce au vote par correspondance plus massivement démocrate, ça paraît inconcevable pour beaucoup de gens comme Ray qui s'attendent à d'autres recours en justice. Écoutez.
Il suffit de rouler en voiture ici, on voit très très peu de pancartes Biden, énormément de panneaux de soutien à Trump. Je ne serais pas surpris du tout que ça se finisse encore devant la Cour suprême. Ça ne va pas être beau à voir.
Voilà, Donald Trump a déjà enclenché un recours ici en Pennsylvanie. À Kittanning, en tout cas, les habitants promettent en majorité qu'ils accepteront les résultats quoi qu'il arrive, mais que le climat de division qui règne déjà n'est vraiment pas prêt de se dissiper.
Merci beaucoup Théo Manval. En direct donc aux côtés des pro-Trump en Pennsylvanie.
Et vous restez également évidemment comme Xavier Yvon branché en direct avec nous. Si vous avez des informations, vous revenez vers nous car la situation peut évoluer maintenant minute par minute, d'heure en heure. On suivra ça évidemment tout au long de la soirée en direct sur Europe 1. 18h06, l'autre information ce soir, c'est cette déclaration d'Emmanuel Macron. Pardon, on n'a pas fini.
Oui, je voulais quand même qu'on a entendu les Républicains, mais on n'a pas encore entendu les démocrates. Alors si vous voulez bien, Julien, on va retrouver Mathieu Bock qui suit lui aussi aux côtés de ces démocrates à Washington, minute par minute, l'avance de leur candidat. Mathieu, vous êtes non loin de la Maison-Blanche, sur la Black Lives Matter Plaza, c'est tout un symbole, avec sur place donc des démocrates qui n'en peuvent plus et qui aimeraient bien que le suspense prenne fin.
Oui, regroupés devant les barrières anti-émeutes qui protègent la Maison-Blanche, certains militants et sympathisants démocrates arborent des pancartes anti-Trump en écoutant de la musique au soleil. D'autres, comme Ursula, tiennent une pancarte « Count the votes ». Une évidence pour elle, cette retraitée qui a vécu en France est épuisée par l'attente des résultats.
Je crois que c'est normal, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on attend depuis des années. Donc je ne vois pas qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème, on veut juste ce dont on a le droit. Je crois qu'au début, il y a deux jours, ça fait comme deux semaines, trois semaines déjà, on était un peu déçus, mais maintenant, petit à petit, surtout qu'on ne voit pas de... On n'a pas vu beaucoup de violence, au moins pas ici. Donc on est un peu soulagé.
Assis sur une chaise devant les portraits des victimes de violences policières accrochées aux grilles, George, lui, est certain de la victoire de Biden.
C'est sûr qu'il va gagner. Trump me rend fou, il rend tout le monde fou. Ils veulent voter des Noirs, mais ils s'en foutent des Noirs. Trump est un suprémaciste blanc, voilà ce qu'il est.
En attendant la défaite de Trump, donc, ces démocrates patientent en consultant leur téléphone portable à la recherche de la moindre information sur les décomptes en cours.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Washington, aux côtés de partisans démocrates. Comme ça, on a donné la parole aux deux camps.
Ben oui, vous avez bien fait de me reprendre. Merci, j'ai voulu aller un peu vite. 18h08, on passe maintenant donc à l'autre titre de ce journal. Emmanuel Macron qui a dit « Il faut refonder en profondeur les règles qui régissent l'espace Schengen », le chef de l'État en déplacement à la frontière franco-espagnole au col du Pertus dans les Pyrénées-Orientales.
Oui, Emmanuel Macron qui a également annoncé un doublement des forces de sécurité déployées aux frontières dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et contre le terrorisme. Elles passeront ces forces de 2800 à 4800 policiers au niveau national. Un renforcement des contrôles qui a déjà commencé, comme vous avez pu le constater, Benjamin Peter, dans ce secteur du Pertus sur l'autoroute A9.
Oui, l'objectif, c'est clairement de renforcer les effectifs de la police de l'air et des frontières. Alors, au péage du Pertus, ici, la porte d'entrée en France depuis l'Espagne, la CRS 59 contrôle tout type de véhicules, des camping-cars, des camionnettes ou des camions venus d'Espagne.
Bonjour, vous pouvez ouvrir derrière ?
Le brigadier chef Laurent grimpe ensuite dans la remorque pour un coup d'œil rapide sur le chargement.
On voit quand il y a des endroits, je veux dire, où c'est mal rangé, tout n'est pas structuré, parce que le chauffeur, son intérêt à lui, c'est de ranger un maximum de matériel dedans pour son transport. Donc, du coup, dès qu'on voit qu'il y a des incohérences dans les alignements et tout, on sait très bien que quelqu'un rentre en force, a tout dégagé.
La compagnie venue de Toulon avec 70 hommes doit rester 2 semaines ici avant d'être relayée. Pour le commandant David Lafosse, il s'agit d'assurer une présence continue à la frontière.
La mission devrait durer. Les CRS seront présents 24 heures sur 24. D'autres unités CRS sont déjà prévues pour assurer la continuité de la mission.
Alors en plus de la CRS 59, une unité de gendarmes mobiles et des réservistes de la gendarmerie seront mobilisés dans le département des Pyrénées-Orientales, ce qui devrait permettre d'augmenter les effectifs en contrôle aux frontières de près de 150 tous les jours.
Benjamin Péter à la frontière franco-espagnole.
Donc. Et on parlera immigration tout à l'heure dans le Club des idées, immigration économique et immigration du travail avec les vrais chiffres. Ce sera à partir de 19h15.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h11, c'est la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Alors que de plus en plus d'épidémiologistes assurent que le confinement allégé ne suffira pas pour casser rapidement la courbe. Nouvelle conférence de presse en ce moment du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Oui, qui confirme les très mauvais chiffres de ces derniers jours. La situation se dégrade, la deuxième vague est violente, dit-il. Et vous savez que depuis plusieurs jours, les enseignants tirent la sonnette d'alarme.
Oui, le SNES-FSU, le premier syndicat du secondaire, appelle à une grève sanitaire dans les lycées mardi prochain.
Il dénonce un protocole sanitaire qu'il juge insuffisant et demande en urgence de nouvelles mesures. Virginie Riva, vous nous dites que le ministre de l'Éducation a entendu cette inquiétude et qu'il va s'adresser directement aux personnes concernées ce soir.
Oui, il est en ce moment même en train d'étudier la situation des lycées sur tout le territoire. Il consulte les recteurs, il a vu les élus lycéens cet après-midi, hier les directeurs d'établissement, pour comprendre s'il y a des difficultés pour appliquer le protocole sanitaire partout ou seulement dans certains lycées où les effectifs sont trop nombreux. Après ces réunions, il s'adressera ce soir par mail aux directeurs et enseignants, puis fera un message vidéo aux lycéens. Pour annoncer quoi ? À ce stade, il pourrait dire que l'enseignement en hybride est possible là où la situation l'exige. Hybride, c'est par exemple une semaine en présentiel pour les secondes. La semaine d'après, c'est au tour des premières et des terminales. Et ceux qui ne sont pas présents physiquement ont cours à distance. Après, il y a aussi le scénario du demi-groupe. Demi-groupe, c'est une classe divisée en deux. Une partie est en présentiel, l'autre en classe virtuelle. Ça pourrait être efficace dans les lycées avec 35 élèves par classe, notamment. C'est ce que demande le SNES, le principal syndicat du second degré. L'idée, ce soir, c'est surtout de déminer la situation après l'appel à la grève. Appel à la grève qui est étudié en ce moment même en réunion intersyndicale. Mais sans que tout cela devienne forcément une obligation nationale pour tous les lycées de France. Dans l'entourage du ministre, on le reconnaît, le début de semaine a été compliqué, il faut surtout calmer les choses.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1 et on suit donc la conférence de presse en ce moment du ministre de la Santé. On vous en dira plus à 18h30. Le verdict à l'instant du procès de l'attentat manqué contre une église de Villejuif et du meurtre d'Aurélie Châtelain, c'était en 2015. Sid Ahmed Glam, le principal accusé de cette attaque, vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Le sport avec ce nouvel exploit français au Master 1000, chère Isabelle, de tennis de Paris-Bercy.
Le français Hugo Humbert qui avait déjà battu le grec Tsitsipas triomphe face au croate Marin Cilic et se hisse donc en quart de finale.
Et on suivra ça évidemment. Le foot, place à la Ligue Europa ce soir.
Nice se déplace à Prague et Lille sur la pelouse de l'AC Milan. Et puis si je vous dis Thuram, ça y est, vous êtes en 98, la Coupe du Monde, l'épopée victorieuse, les deux buts contre la Croatie, le doigt sur la bouche.
Eh bien, saison 2.
C'était bien, 98. Eh oui, ben là, on est en 2020 et Thuram est de retour en équipe de France, enfin presque. Hein. C'est la surprise du chef Cyril de la Morinerie. Didier Deschamps a décidé de convoquer pour les prochains matchs des Bleus le jeune Marcus Thuram.
Oui, si Lilian Thuram était défenseur, Marcus, lui, est un attaquant de grande taille, 1m92 et jeune, il a 23 ans. Le fils du champion du monde est né en Italie à Parme au moment où son papa est devenu une star. Il a ensuite gravi un à un les échelons, Sochaux, Guingamp, puis Mönchengladbach en Allemagne, où il est en train de se faire un prénom. Marcus Thuram vient notamment de marquer un doublé en Ligue des Champions face au Real Madrid de Zidane. Après Jean et Youri Djorkaeff, il y a donc désormais Lilian et Marcus, mais ce sont bien ses qualités et non son prestigieux nom de famille qui lui ont ouvert les portes de Clairefontaine, assure Didier Deschamps.
Je pense que ça doit faire énormément plaisir à son papa, Lilian, Tutu. Mais ça passe au deuxième, troisième plan. Le mérite, c'est Marcus qu'il a de par ce qu'il fait. Et il a encore une bonne marge de progression.
Outre-Rhin, Marcus Thuram marque et se démarque. Le puissant attaquant n'a pas hésité à mettre un genou à terre pour George Floyd. En équipe de France, le fils de Lilian part bien sûr de loin. Son papa est le recordman de sélection en bleu avec 142 caps.
Cyril Delamoridrie du service des sports d'Europe 1.
Merci Isabelle, on vous retrouve à 18h30 et à 19h pour le grand journal de l'info. Alors, il y en a une à côté de nous qui fait des bonds sur sa chaise depuis tout à l'heure parce qu'on a parlé de Sochaux.
Bah oui.
Hein, Nissa ?
Les plus grands joueurs viennent de Sochaux.
Parce que vous adorez Sochaux, vous supportez Sochaux.
Et Marcus Thuram est formé à Sochaux.
Bon. Et on peut parler de météo avec
oui,
vous quand
bien
même
sûr,
bon, bah c'est bien. Alors, débrouillard avant un généreux soleil, c'est
oui.
ça ce que vous nous dites pour demain.
Même scénario qu'aujourd'hui, effectivement, Julien. La journée de demain va débuter avec de la Vendée jusqu'aux frontières de l'Est, sur l'Auvergne et la région lyonnaise, des nuages bas, des brouillards matinaux. Soyez prudents si vous devez prendre la route demain matin. Ces brouillards vont se dissipé au fil des heures. Demain matin sur le Languedoc, les entrées maritimes et le vent marin vont vous apporter un ciel gris avec de la pluie sur les Cévennes. Et puis sur les Pyrénées, le risque d'averse est présent encore demain toute la journée. Partout ailleurs, c'est un grand, beau et franc soleil. Les températures, elles seront fraîches le matin avec encore des valeurs négatives, hein, des gelées blanches dans le nord et le nord-est. Et puis 3 à 13 degrés ailleurs, 3 degrés seulement à Paris, il va falloir se couvrir, et 13 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, vous parliez d'un redoux, Julien, il va se faire sentir dans le sud avec 22 à Biarritz, 21 à Marseille, c'est printanier, 20 à Nice, Bordeaux, Nîmes, 19 à Clermont-Ferrand, 18 à La Rochelle, 16 à Saint-Étienne. C'est un petit peu plus frais sur la moitié nord avec 13 à Paris, 12 à Lille et 11 pour Strasbourg.
Vous savez ce qu'on va faire ? On va se délocaliser tout l'hiver à Marseille, comme ça
avec
on sera
grand
pédard.
Plaisir.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h20, il est l'un des auteurs et dessinateurs les plus talentueux de sa génération. Que ce soit à travers les cahiers d'Esther ou dans son récit autobiographique, L'Arabe du Futur, dont il sort aujourd'hui le 5e tome. Bonsoir Riyad Satouf.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous en direct et d'avoir accepté notre invitation. Alors L'Arabe du Futur revient en librairie. En librairie, hein, il faut l'acheter en librairie d'ailleurs, avec ce 5e volet très réussi et dans lequel vous révélez votre secret de famille le plus sombre, ce que vous appelez pudiquement le coup d'État de mon père. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que c'est ce coup d'État ?
Alors, j'essaye de ne pas trop divulgâcher pour les lecteurs, parce que souvent, quand on en parle trop, après, ils m'écrivent sur mon compte Instagram en me disant « Vous en avez trop dit ». Mais c'est vrai que voilà, l'Arabe du futur, c'est l'histoire de ma famille. Mon père était un Syrien issu d'un milieu très pauvre et qui avait épousé ma mère, qui était une Bretonne. Et donc, dans cette histoire familiale, il y a un drame, un crime. Mon père a fait un crime, et donc il y a une sorte de trou noir autour duquel tourne la série de l'Arabe du futur. Et donc ce dernier tome aborde cette partie-là notamment au travers de la période de l'adolescence, qui est le moment où, on a un corps qui se transforme et qui évolue, on se tourne un petit peu vers le surnaturel, le mystérieux, le paranormal, etc. Donc,
vous l'avez détesté, votre père, pour ce qu'il a fait ? On ne va pas dire de quoi il s'agit, mais est-ce que vous l'avez détesté pour ça ?
Alors, justement, ce que je raconte aussi dans ce livre, c'est à quel point quelque chose qui peut être très brutal comme ça, en fait, n'est pas tout de suite assimilé par la psyché. Par exemple, je raconte au début que je ne ressentais aucune tristesse, mais sauf qu'en ne ressentant pas de tristesse, on se rend compte que le monde autour de nous change et qu'en fait, c'est la terreur qui s'installe, quelque part. On commence à avoir peur de toute chose, on se méfie de plein de... C'est comme s'il y a une déflagration nucléaire.
Mais qui vous structure quand même, qui a un impact
sur
vous, vos relations avec les autres.
C'est exactement comme une explosion de centrale nucléaire. On pense qu'il ne s'est rien passé, sauf qu'il y a une radioactivité qui est passée au travers de vous et qui va vous influencer sur tout le reste de votre existence.
Alors Riyad Satouf, dans cet album comme dans les autres, c'est drôle, c'est sombre à la fois, mais c'est très drôle. Ça se déroule entre 92 et 94, vous êtes ado, en Bretagne, à Rennes, et au travers de votre histoire perce le tiraillement évidemment entre deux cultures, la Syrie et la France, et puis l'emprise aussi de la famille qu'on sent à travers votre père. Est-ce que ça vous a pesé ça dans votre construction ?
Alors moi j'ai eu la chance, d'avoir très tôt pu m'exprimer de manière artistique. Alors, j'ai grandi dans un petit village en Syrie, paysan, dans la famille de mon père. Il n'y avait pas de livres, pas de bibliothèque, pas de librairie. Les seuls livres que je lisais, c'était ceux que m'envoyait ma grand-mère bretonne.
Vous dites le déclic, c'était Tintin à l'âge de 4 ou 5
ans. Oui, c'est ça. Elle m'envoyait des bandes dessinées dans ce petit village. Donc, il mettait un mois et demi à arriver. Pour moi, en effet, pour moi, dans ma vie, si je suis là en train de vous parler ce soir, c'est grâce à ces livres-là. Et le livre a donc été pour moi un bien essentiel dans ma construction. Et c'est vrai qu'ensuite, quand nous sommes arrivés en France, ce tiraillement entre deux cultures, le côté très prude de la famille de mon père, le côté très libéré de la famille de ma mère, je me suis choisi une autre identité qui est celle de l'expression artistique et de ceux qui font des livres.
Mais vous avez vécu une enfance troublée avec ces deux cultures. Est-ce que vous avez ressenti ce déracinement et est-ce que vous avez été victime aussi d'une certaine manière d'une forme de racisme quand vous êtes arrivé en France ?
Alors, moi, je n'ai jamais été victime de racisme en France. Alors, j'ai eu cette chance. Il y a des gens, évidemment, qui n'ont pas la même histoire que moi. Riyad Satouf, ce n'est pas directement un nom à consonance arabe, peut-être. À cette époque-là, on ne savait pas où était la Syrie. On s'est plus moqué de l'aspect ridicule de Satouf. Ouais. « Hey, Satouf, hey, t'as une grosse touffe !» Mais c'était plus ça, mais c'était pas « Hey, dégage !» Alors, j'ai jamais été empêché. Pour moi, l'expérience que j'ai de la France, ça n'est absolument pas un pays raciste. C'est un pays certainement où il y a des racistes, où il y a un problème de racisme dans certains aspects de la société. Mais j'ai pu faire mes études, j'ai bénéficié de bourses. J'adore la liberté qu'il y a en France de faire des livres. Enfin, moi qui ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à mes livres, je n'ai pas croisé de pays qui me plaisent mieux qu'ici.
Et ça marche du tonnerre, avec plus de 2 millions d'albums vendus pour les 4 premiers tomes de l'Arabe du futur, 1 million à l'étranger, ça a été traduit en 22 langues. Vous savez que c'est plus qu'Éric Zemmour et son destin français, l'Arabe du futur ?
Ah, ben, alors, je...
C'est un clin d'œil, mais est-ce que c'est une satisfaction pour vous ? L'Arabe du futur / le destin français.
Alors, j'essaie...
Ça résume assez bien le débat du moment, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que je me force... par souci de progression spirituelle personnelle, à jamais dire tellement de mal des autres et des autres livres. Voilà. Moi, je pense que quand on écrit un livre, et qu'on ne l'aime pas, admettons qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit Zemmour,
oui.
Moi, ça me donne envie de faire des livres plutôt que de vouloir répondre ou dire du mal, etc. Donc c'est vrai que la pulsion intellectuelle, de combat politique, etc., pour moi, elle va se manifester dans les livres.
Mais je vous pose la question, parce que c'est vrai qu'il y a de la politique dans vos ouvrages, dans les Cahiers d'Esther aussi, qui racontent l'enfance d'une enfant qu'on voit grandir au fur et à mesure des années. Vous évoquez par exemple la mort de George Floyd aux États-Unis et l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux chez les jeunes. Est-ce que vous évoquerez par exemple dans les prochains tomes l'assassinat de Samuel Paty et de tout ce qui en découle?
Alors, les Cahiers d'Esther sont publiés toutes les semaines dans le magazine L'Obs.
Oui.
Et j'ai fait une page donc déjà sur Samuel Paty. Et en fait, ça va revenir parce que c'est une chose qui a beaucoup marqué la vraie Esther. Donc, c'est une véritable jeune fille qui me raconte ses histoires. Et donc, bien sûr, je vais en parler. Oui, bien sûr.
Et vous dites, d'ailleurs, on a le droit d'être choqué par des caricatures, mais on doit avoir le droit, en France, de les montrer. C'est ainsi.
On doit surtout avoir comment dire, on n'a pas le droit d'interdire quelqu'un de faire quelque chose qui nous déplaît. Alors, l'insulte, l'humiliation, il faut éduquer les gens à comment dire, ça fait partie du débat intellectuel. Moi, si quelqu'un m'insulte, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas envie de le tuer.
Oui, mais vous êtes très attaché à la liberté d'expression et au droit au blasphème, Riyad Satou. Vous avez participé et collaboré avec Charlie Hebdo pendant de nombreuses années. Donc tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'en est suivi, vous a, j'imagine, beaucoup affecté.
Bien sûr, et c'est vrai que, alors moi, dans Charlie Hebdo, je ne faisais pas directement de la caricature politique. Je publiais une série de bandes dessinées qui s'appelait La vie secrète des jeunes. Et Charlie a toujours été pour moi le symbole de la liberté, et cette liberté qu'on avait en France, justement, de cette histoire de la liberté. C'est-à-dire, il y a des livres de gauche, des livres de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, oui. Des gens qui y a un débat d'idées. Il faut savoir, quand on grandit là-dedans et qu'on croit que c'est naturel, c'est pas du tout naturel partout sur Terre. Ça n'existe grosso modo qu'ici. Si vous regardez aux États-Unis, c'est une vaste catastrophe, comme on voit même la gauche américaine, elle est catastrophique, on ne veut pas le voir, mais s'il y a Trump aujourd'hui, c'est aussi de la gauche américaine qui a échoué complètement. Donc la liberté d'expression, la liberté de critiquer, de remettre en cause, de douter, de refuser les dictats de pensée, quelles qu'elles soient, c'est quelque chose qu'il faut préserver absolument en France.
Et c'est important pour vous, d'autant que vous avez participé à l'occasion de la sortie de ce 5e tome, au dernier numéro de Reporters sans frontières, sans dessin pour la liberté de la presse. On y découvre votre vie, là aussi, mais en vrai, avec des vraies photos. Vous étiez donc blond quand vous étiez petit, voilà, je confirme. Et vos premières planches de dessin, ça s'appelle d'ailleurs « Comment devient-on Riyad Satouf ?» Est-ce que vous avez trouvé la réponse, vous?
Non, pas vraiment, mais je suis ravi de participer à faire cet album pour Reporters sans frontières, qui est une association qui lutte pour la liberté de la presse. Et c'est vrai que On en a extrêmement besoin aujourd'hui parce qu'elle diminue partout sur Terre.
Oui.
On veut penser que ce n'est pas le cas, mais il n'y a plus qu'en Europe à peu près où la presse est libre. Même aux États-Unis, on le voit tous les jours, que ce soit dans les journaux de droite ou de gauche, il n'y a plus la même liberté qu'il peut y avoir ici. Donc moi, voilà, si je peux faire quelque chose pour les aider, je serais ravi.
Vous avez dit tout à l'heure, dernier tome pour l'Arabe du futur.
C'est le sixième.
Il y en aura encore un. Voilà, parce qu'il y a tous les fans tout à l'heure qui, je pense, quand vous avez dit dernier tome, ont cru que c'était le 5
et
c'était donc
le dernier.
Donc il y aura un sixième. C'est important de le rappeler. Merci Riyad Satou d'avoir été ce soir en direct avec nous. Achetez-le, c'est formidable, Arabe du futur 5, une jeunesse au Moyen-Orient, c'est aux éditions Alary Édition. Et puis je rappelle Reporters sans frontières, Riyad Satou, sans dessin pour la liberté de la presse. Et on les achète en librairie, bien sûr.
Oui, il y a beaucoup de librairies qui font le clic et rapplique, ou clic et viens chercher ta commande, ou clic et collecte.
Merci infiniment, merci Riyad Satou, d'avoir été avec nous ce soir dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres d'Isabelle Millet.
Arrêtez le comptage, écrit Donald Trump pour Trump sur Twitter. Le président sortant veut stopper le processus électoral alors que Joe Biden a pour l'instant l'avantage. Mais prudence, prudence, on n'a toujours pas le gagnant. Hein. La situation sanitaire en France, la deuxième vague est là et elle est violente, confirme ce soir Olivier Véran. Il faut respecter le confinement. Nous devons freiner tous ensemble la propagation du virus vite et fort. Sid Ahmed Glam, condamné ce soir à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est le principal accusé du procès de l'assassinat d'Aurélie Chatelain et de l'attentat avorté contre une église à Villejuif en 2015. Emmanuel Macron double les forces aux frontières pour mieux lutter contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Il appelle également à refonder Schengen. Le gouvernement promet aux libraires de prendre en charge les frais d'expédition des livres pendant le confinement. Objectif, inciter les Français à commander auprès de leurs libraires plutôt que sur les grandes plateformes. Et puis au Masters 1000 de tennis de Paris-Bercy, Hugo Humbert royal après avoir battu le grec Tsitsipas. Il triomphe face aux Croates Cilic et se hisse en quart de finale.
Merci Isabelle. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Voilà, et ça se résume en trois mots. Anissa, belle journée demain.
Exactement, avec du soleil qui va briller sur toute la France, comme aujourd'hui. Hein, une journée vraiment automnale. Et en plus, nous serons demain sous un régime de flux de sud. Ça veut dire que les températures, elles vont remonter, en tout cas dans le sud. Hein, c'est printanier, 22 degrés à Biarritz, 21 pour Marseille, 19 à Clermont-Ferrand. Sur la moitié nord, c'est un petit peu plus frais avec 15 à Brest, 13 à Paris, 12 à Lille et 11 à Strasbourg. Demain matin, attention, encore des gelées blanches sur le nord et le nord-est. Et puis les brouillards seront encore très présents, mais dans l'après-midi, le soleil s'impose.
Bien, à tout à l'heure, 18h33.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Didier Combeau, auteur de « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle » aux éditions Gallimard. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Yves Tréhard. Bonsoir Yves, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Avec David Revaud-Dallone. Bonsoir David.
Bonsoir.
Rédacteur en chef politique au JDD. Et Xavier Yvon, correspondant Europe 1 aux États-Unis. Xavier, on commence par vous et on vous retrouve en direct. Où en est-on? Est-ce que l'avance de Biden se confirme? Est-ce que la tendance peut encore s'inverser?
Alors oui, la tendance peut toujours s'inverser, sinon on aurait dit que Biden est élu. En fait, on est en train de suivre un peu ce qui ressemble à une course de petits chevaux. Alors si vous voulez que je vous donne les dernières tendances, dans le Nevada, Joe Biden est en train de reprendre légèrement de l'avance et en Géorgie, il est en train de réduire l'écart. On est passé de 0,4% des voix à 0,3% des voix, c'est-à-dire 14 000 voix, hein, donc ça va peut-être se jouer à quelques centaines de voix. On est toujours en train de dépouiller. Voilà, c'est pour la course de petits chevaux. Pour le contexte, les deux camps ont des attitudes extrêmement différentes.
Oui.
Vous avez le camp Biden qui se montre très serein. On a eu tout à l'heure la directrice de campagne de Joe Biden qui s'est adressée aux journalistes, qui se dit très optimiste, notamment pour la Pennsylvanie, en pensant que Joe Biden finira avec une large avance. Donc on a le camp Biden serein qui attend, et le camp Trump beaucoup plus fébrile. On a senti la frustration de Donald Trump dans ses tweets ce matin. Il dit qu'il va contester toutes les victoires de Joe Biden, qu'il faut arrêter de compter les votes. D'ailleurs, pour montrer la fébrilité dans le camp Trump, il y a des manifestations devant les bureaux d'ébouillement un peu partout dans les États qui comptent encore les bulletins aux États-Unis. Et dans les États où Donald Trump est en tête, les manifestants pro-Trump crient « arrêtez de compter ». Et dans les États où Donald Trump est en retard et veut rattraper son retard, les manifestants, comme en Arizona, crient « continuez à compter ». Donc, pour vous dire un peu la confusion qui règne.
Alors, vous restez avec nous, évidemment, Xavier, tout au long de cette soirée, jusqu'à 20h au moins. Votre analyse, Yves Fréard, est-ce que Donald Trump, si ses résultats se confirment et si l'écart en faveur de Biden se creuse, choisira-t-il, comme vous l'écrivez aujourd'hui dans le Figaro, la voie du conflit jusqu'au bout?
Oui, c'est dans son caractère, c'est dans sa façon d'être, qui est peu reluisante et qui donne d'ailleurs une image de la démocratie américaine pas extraordinaire. Alors, est-ce que c'est l'image de la démocratie américaine? C'est l'image que lui donne, et c'est malheureusement une image qui fait tache d'huile dans le monde entier.
Oui.
Puisque c'est la figure, je pense, vraiment tutélaire aujourd'hui d'une forme de populisme qui ravage précisément, d'ailleurs, beaucoup de pays démocratiques ou beaucoup de pays qui pourraient accéder à la démocratie et qui sont empêchés par une forme de populisme qui nie le droit, qui nie le débat, qui nie l'expression. Mmh. Et ça, c'est très dangereux. Et malheureusement, Donald Trump, on le voit à travers cette élection, eh bien, a progressé par rapport au précédent scrutin. Et donc, Donald Trump, on voit que même si Trump perd ce scrutin,
oui,
eh bien, le Trumpisme, ou cette façon d'être, cette façon de faire, elle n'aura pas été battue.
Mais
et elle restera.
Ouais, c'est vrai qu'il a créé la surprise, Didier Combeau. La campagne de Donald Trump a montré sa capacité à additionner divers courants idéologiques. Ça, c'est quand même nouveau. Et personne n'a vu arriver cette vague rouge. Même s'il perd ce soir, demain ou après-demain, il a quand même réussi à créer la surprise.
Oui, parce que les conditions d'émergence du Trumpisme existaient avant Trump. Trump a su capter ce ressentiment des couches populaires blanches peu diplômées qui ont l'impression d'être laissées sur le bord de la route. Ça, il a su...
Mais pas que, un tiers des Hispaniques ont voté pour Trump.
Oui, parce que Trump, c'est le président des blancs sans diplôme, mais c'est aussi le président de ceux qui ne veulent pas payer trop d'impôts.
Oui.
C'est aussi le champion du libre marché, et puis c'est aussi le champion de l'anti-establishment, et puis le champion du nationalisme. Et c'est tout ça qui s'additionne. Et ses électeurs n'ont pas toutes ces caractéristiques-là individuellement, mais il a su amalgamer tous ses électeurs.
Alors peut-être pas le libre marché, fiscalité libre, parce que c'est plutôt l'homme du protectionnisme, David Revaud-Allen.
Au niveau international, sur le territoire américain, évidemment, c'est le libéralisme à outrance. Si on sort du champ économique, on peut même dire que c'est ce qui s'est passé sur la gestion de la crise sanitaire. C'était en gros le laisser-faire, laisser-aller. Extrêmement.
Mais c'est vrai que les sondeurs, cette fois encore, se sont trompés.
Alors qu'on annonçait,
on annonçait 10 points d'avance quand même pour Biden.
Ils expliquent qu'à 3 points de marge d'erreur, donc plus 3, moins 3, ça fait quand même 6. Bon, c'est vrai qu'ils
sont. Et il était à 8-9.
Il était à 8-9. C'est vrai qu'ils se sont quand même assez trompés. Il faut dire à leur décharge que le taux de vote par correspondance n'a jamais été aussi élevé, qu'il a été surmultiplié par l'épidémie de Covid et que. Pour le coup, il est assez partisan, ce vote par correspondance, parce qu'on voit que, voilà, par faire le film ici, mais les Républicains votent en bulletins sonnants et trébuchants, et les démocrates ont plus tendance à voter par correspondance. Moi, ce qui m'inquiète, je voudrais revenir sur ce qu'avait dit à l'instant Yves Tréhard, on sait que les États-Unis, ils ont toujours 5, 10, 15 ans d'avance en termes de pratiques politiques sur ce qui se pratique partout ailleurs, et notamment chez nous en Europe. Souvenez-vous, hein, Kennedy, la communication, oui. Nixon, la télévision, la politique comme... divertissement, tout ceci finit par arriver chez nous. Et là, ce que je redoute, et d'ailleurs on le sent, puisqu'on voit que même en France, on prend fait et cause pour ou contre Trump en reprenant exactement les mêmes arguments, et notamment question de la fraude. Y a-t-il une fraude massive? Pas du tout. On voit que vraiment, on reprend à notre compte le débat, nous, Français. Mmh. Et ce qui est inquiétant, je trouve, c'est que voilà, Donald Trump, très clairement, qu'on soit pour ou contre lui, il abîme le système démocratique américain, il abîme la foi en la démocratie, la foi en le fait que, finalement, le fait de mettre un bulletin dans l'urne est le meilleur système politique qui soit, et ça va finir par arriver chez nous, parce qu'on voit aussi que ces vérités alternatives qu'il avait évoquées au début de son mandat, bah aujourd'hui, ça coûte très très cher à la démocratie, parce qu'il y a des gens qui vont vous expliquer que Trump a perdu, et donc
oui.
Et d'autres qu'il a gagné, et ça pose quand même...
Yves Tréhard a réagi dans quelques secondes, 18h40, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42 avec toujours le débat des grandes voix spéciales US ce soir, et notamment Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit David Revaud-Allen juste avant la pause? Il y a une analogie qui est possible avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui pourrait demain se passer chez nous en Europe, qui a d'ailleurs déjà commencé. Boris Johnson est un produit du populisme. On pense également à Viktor Orban en Hongrie, il y en a d'autres. Mais ça pourrait arriver chez nous en 2022 en France?
Oui, alors oui, ça pourrait arriver chez nous, bien sûr, parce qu'on voit que les colères montent, on voit qu'il y a quand même un ras-le-bol général dans les vieilles démocraties, notamment contre ce qu'on appelle l'establishment.
Oui.
D'ailleurs, il ne faudrait pas employer ce mot-là, parce qu'il est quand même très connoté. mais un discours anti-élite, si vous voulez.
Mais le jour mais là, ce qui est nouveau, c'est la contestation des règles.
Et la contestation des règles, parce que ces règles ont été fixées par les élites, prétendument fixées par les élites. Et donc ça, c'est très très grave. Et ce qui se passe actuellement aux États-Unis me fait penser à un film, que je ne sais pas si nos auditeurs l'ont vu il y a quelques années, qui s'appelait Gang of New York.
Oui.
Of New York. C'est exactement ça. C'était d'une rare violence hein, physique. Mais on est quand même dans cette violence du verbe. Et on voit d'ailleurs que chez les électeurs, ça peut se traduire par une violence physique. On voit que là, chaque camp, et notamment chez les Républicains, même chez les démocrates, on s'est armé. Il paraît dans certains endroits pour faire face. Si
il y a eu quelques heures qui ont éclaté voilà, aujourd'hui.
Si jamais la défaite n'est pas acceptée par leur champion. Et donc ça, c'est dégénant. Et alors, ce qui est... alors, je sais, est-ce que ça peut arriver dans un pays comme la France? Je ne sais pas. On a, pour nous, une chose qui est extraordinaire, c'est notre système électoral, qui est quand même d'une limpidité, au moins pour le président de la République, qui est très clair. Et ce qui est l'image que donnent les États-Unis là aussi à la faveur de ce scrutin, ce qui avait déjà été le cas en 2000, ce qui avait été plus ou moins le cas déjà en 2016, c'est que c'est un scrutin qui est archaïque, compliqué. Alors vous me direz, c'est un pays fédéral, c'est-à-dire que chaque État a en plus ses propres règles.
Oui.
Et ça, on peut pas le contester. Les États-Unis se sont faits par l'agrégation de ces États justement. Donc, mais ça rend aussi vous voyez, on est dans l'ère de la transparence
oui,
et
oui.
Ça rend les choses complètement
et
obscures.
Là, c'est là le grand paradoxe, Didier Combeau, vous êtes auteur de « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle ». C'est là le grand paradoxe, c'est qu'on est dans la transparence totale et en même temps, on n'a jamais été autant, et je parle collectivement, intoxiqué par les faits alternatifs, les fake news. Et pour la première fois dans l'histoire, il y a un président élu qui s'en empare et qui décrète que ce sont des faits vérifiés.
Oui, et ces fake news, ces réseaux sociaux participent à la polarisation de plus en plus extrême de la politique américaine parce que les algorithmes poussent vers chacun des opinions qui sont déjà les siennes et donc confortent chacun dans ses opinions plutôt que de leur permettre d'être confrontés à des opinions.
Et chacun
autres.
Dans son camp, Fox News pour les uns, CNBC et CNN pour les autres.
Le démocrate moyen était de plus en plus à gauche et le républicain moyen de plus en plus à droite. Et ça, on l'a constaté avant l'élection de Donald Trump. Et en plus, cette extrême polarisation, elle est devenue affective. C'est-à-dire que les deux camps se détestent épidermiquement, au-delà même de tout raisonnement politique ou idéologique. Enfin, ils se détestent au point de craindre de voir leurs enfants se marier avec quelqu'un du camp opposé beaucoup plus qu'auparavant, par exemple.
David Robaud-Allen.
Oui, c'est vrai que moins que le système lui-même qui est assez transparent, alors moi, je trouve que ce système, la fédérale du winner takes all, on a l'impression d'être au casino, quoi, hein, c'est Las Vegas. C'est-à-dire qu'en gros, le gagnant dans un État remporte tout, il n'y a pas du tout de proportionnel, c'est l'ultra majoritaire. C'est vrai que nous, on est assez protégés de ce point de vue-là. Et pour avoir une situation à l'américaine aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on ait quelques dizaines de milliers de voix, ce qui semble peu probable d'écart. En revanche, sur les faits, c'est très inquiétant parce que ce qui s'est passé pendant ce quinquennat ici, on l'a vu d'abord avec le mouvement des Gilets jaunes et on le voit bien sûr depuis le début de cette épidémie de Covid, c'est que tout peut être sujet à controverse. Il n'y a plus de vérité historique, il n'y a plus de vérité scientifique, il n'y a plus de vérité politique.
Il n'y a surtout plus de place, j'ajouterais, pour la nuance.
Plus de place pour la nuance, effectivement.
Il n'y a plus de confiance.
Et ce que vous décriviez sur l'écart entre les démocrates, l'écart croissant entre les démocrates et les républicains qui semblent s'éloigner les uns des autres de façon de plus en plus radicale, on le constate également chez nous. Et je pense que c'est ce à quoi on va assister pendant la campagne de 2022, avec des auteurs qui ne s'écoutent pas, des acteurs qui ne s'écoutent pas non plus, qui s'accusent de mensonges, de fake news, et on aura deux vérités dont l'un vaudra absolument l'autre, alors qu'en réalité, on sait bien que, en général, la vérité, elle est nuancée, comme vous le dites, et elle est surtout établie sur des travaux scientifiques, sur des travaux historiques, etc.
Avec un élément ce soir nouveau, ce sont les observateurs électoraux internationaux de l'OSCE qui accusent Donald Trump d'abus de pouvoir flagrant, ce sont leurs mots. On en parle juste après la pause, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, on est toujours ensemble avec le débat des grandes voix spéciales US ce soir, et notamment Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Il se dit côté français, Yves, qu'il n'y a pas de bon vainqueur pour l'Élysée. Est-ce que c'est vrai ça?
Oui, je pense que les Français qui doivent regarder ça avec des yeux écarquillés se disent, bon, si c'est Biden, ça sera mieux parce que Alors, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe. Pourquoi ? Parce que Biden a évidemment est plus dans nos normes. Il est plus classique.
Plus diplomate.
Plus diplomate. Chose. Mais en termes de politique, je pense qu'en termes de politique intérieure, pour les Américains, ça peut changer. Parce qu'effectivement, il est dans une droite ligne démocrate avec la protection de la population.
Obamacare, hausse des impôts pour les plus riches.
Hausse des impôts pour les plus riches, des choses comme ça. En revanche, sur la politique étrangère, je crains fort, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de changement majeur. Ce qui est sûr, c'est qu'il va essayer, ou faire mine plutôt, de revenir vers le multilatéralisme, c'est-à-dire de dialoguer avec tout le monde. Ce qui est sûr aussi et probable, c'est qu'ils reviennent vers l'accord du climat, sur le climat.
Dès le premier jour, il a dit.
Oui, ça, c'est probable. Sur le reste, il ne faut pas se leurrer. Les États-Unis, et bien avant Donald Trump, ont le regard tourné vers le Pacifique et non vers l'Atlantique. Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas persuadé que dans les accords commerciaux avec l'Europe, eh bien, il soit beaucoup plus faisant que son prédécesseur, si... c'est lui qui lui succède. Et troisième chose...
Non, mais c'est vrai, il est coincé. Il ne pourra pas supprimer les taxes qu'il a mis en place sur les produits importés européens.
Bien sûr, parce qu'il doit tenir compte aussi des Américains.
Oui.
Et il y a un troisième sujet qui est très, très important. Il y a deux autres sujets très importants. Je fais très vite. C'est l'Iran. Et je ne suis pas persuadé qu'il revienne sur le retrait des Américains de cet accord qui était un accord
qui avait
été
signé. Qui a pénalisé les Français, parce que nous, on avait misé économiquement sur l'Iran.
Oui. Et ça, c'est pas sûr qu'ils reviennent dessus. Après, il y a une chose qui, à mon avis, va continuer, c'est que, vous savez que c'est eux qui sont à l'origine de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est le parapluie américain sur l'Europe, et depuis très longtemps, les Américains disent mezza voce ou à haute voix comme Trump, écoutez, assurez votre sécurité, on a marre de payer pour vous. Et je pense que Biden ne changera pas sur ce point-là.
David.
Deux petites nuances peut-être qui concernent le Proche-Orient. Vous avez raison sur l'Iran. Après, il y a la question turque. On voit que Donald Trump était quand même très, très complaisant à l'égard d'Erdogan.
Ouais.
Ça va peut-être changer. Et puis, à l'inverse, le travail qui a été fait en faveur de l'État d'Israël, Trump est quand même... il a peu de succès diplomatique, mais ça, c'est incontestable. Il a quand même réussi à faire signer trois accords entre des États arabes et Israël en soutenant pleinement le gouvernement israélien, en transférant l'ambassade à Jérusalem. Et ça, il n'est pas du tout certain que l'administration démocrate aille dans le même sens.
Didier Combeau.
Et il sera obligé de composer avec une opinion publique qui est assez opposée au multilatéralisme. Je vais vous citer quelque chose qui n'a rien à voir. Quand on voit tous ces manifestants en armes, pourquoi est-ce qu'ils viennent en armes ? Ils ne viennent pas en armes pour s'en servir. Ils viennent en armes pour dire « j'ai une arme, donc j'ai un pouvoir de citoyen, j'ai le pouvoir de prendre les armes contre un gouvernement qui deviendrait tyrannique ». Ce gouvernement qui deviendrait tyrannique, ce serait plutôt le gouvernement fédéral que le gouvernement de l'État. Et ce serait encore plus les instances internationales qui veulent réglementer le climat, qui veulent réglementer l'économie pour le climat. Et donc, il sera bien obligé quand même, Biden, de composer avec ça.
Mais il y a un élément nouveau dans tout ce que vous avez dit. C'est aussi que l'Amérique a acté le fait qu'ils ne sont plus les gendarmes du monde. Donald Trump a annoncé le retrait des troupes, ce qui a fait grand bruit d'ailleurs, y compris chez les généraux américains d'Irak, notamment, et d'Afghanistan. Est-ce que là-dessus, Biden peut revenir sur cette position ?
Non, il ne reviendra pas, parce que d'ailleurs, c'est une position qui est antérieure à Donald Trump. C'est Obama qui a commencé. En fait, il y a eu un mouvement de balancier extraordinaire, parce que tout est parti de George Bush. George Bush est l'homme qui a voulu instaurer la démocratie au Proche-Orient, au Moyen-Orient même. Vaste programme. On a vu comment ça s'est terminé. Ils ont envoyé si on fait Afghanistan, Irak, ils ont envoyé plus de 250 000 hommes sur place. Pour le résultat qu'on sait, qui a été un échec complet. Donc Obama, quand il s'est fait élire, il avait pour mission justement de retirer ses hommes, et il l'a fait.
Avec le maintien tout de même d'un contingent.
Ouais, mais petit, ridicule. Ouais. Mais il avait pour mission de retirer. Et Trump a continué ce travail de retrait, parce que, évidemment, aux États-Unis, il y a le souvenir du Vietnam quand même. Et d'ailleurs, je dirais au passage que le Vietnam a fait moins de morts que l'épidémie de Covid-19 Sur la seule ville de New York.
Sur la seule ville de New York.
Oui, parce qu'il y a eu plus de 50 000 morts à New York avec le Covid-19, alors qu'il y a eu à peu près 50 000 morts, je crois.
Et 230 000 morts sur l'ensemble du territoire américain.
Donc, le retrait militaire, ça ne date pas de Trump. Hein, c'est une lame profonde.
Didier Combeau.
Oui, et sur le nombre de morts, le Covid a fait moins de morts que les opioïdes. et moins de morts que les armes à feu pendant tout ce temps-là également.
Ouais, ce qui est hallucinant d'ailleurs dans toute cette histoire, David Revaud-Allonne, c'est que le Covid n'a pas eu de prise sur l'électorat et que malgré la gestion chaotique de la crise, on le répète depuis maintenant trois jours, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'impact sur le vote pro-Trump.
Alors, il faut pro-Trump, non, bien au contraire, mais d'ailleurs, ça s'est assumé. On voit que, là encore, on revient sur la position libérale, non pas économique, mais sanitaire hein, du président Trump. On est toujours dans le laisser-faire, laisser-aller, des doutes quant à la dangerosité de ce virus, avec un petit côté toujours un petit peu complotiste. On remarque d'ailleurs que le courant complotiste de la droite trumpiste, c'est-à-dire les canons, même commence à avoir des représentants au Congrès. Oui. Donc c'est quand même un signe. Après, je pense que à l'inverse, ça a mobilisé quand même énormément le camp adverse. Ça a scandalisé beaucoup de gens qui étaient peut-être indécis et qui ont basculé de ce point de vue-là dans le camp adverse. Et puis quand même, le système de vote, il n'y aurait jamais eu autant de votes par correspondance, donc potentiellement autant de votes anti-Trump s'il n'y avait pas eu le Covid et le risque de contagion.
Yves Tréard.
Oui, non, c'est sûr que le Covid a quand même pesé. Je pense que ça n'a pas découragé et ça n'a pas détourné le regard des pro-Trump qui sont vraiment... Il a quand même gagné beaucoup d'électeurs Trump dans ce scrutin. Et on pensait que le Covid allait l'achever. Et ça n'a pas du tout été le cas. En revanche, ça a peut-être un petit peu favorisé des gens qui étaient indécis qui ne se seraient pas déplacés ou qui n'auraient pas voté par correspondance en faveur de Biden. Ça, c'est clair. Mais ça n'a pas été la déroute annoncée, en tous les cas, pour Trump avec le Covid.
Et pour l'instant, suspense donc toujours, léger avantage à Biden, mais le match n'est pas plié. On continue d'en parler jusqu'à 20h et dans les jours qui viennent sur Europe 1. À tout de suite.